Radio.
Yes, we can.
America.
You talking to me? You talking to me?
Playtime's over, kid.
Are you ready?
I never play.
Si l'Amérique m'était comptée.
Oh, yeah.
Août 1976, dans l'underground new-yorkais. Le documentariste français Jean-Marie Drault est là, mais avec qui ?
Avec Andy Warhol. Chez lui, ou plutôt à la Factory, dans cette usine à idées sauvages et saugrenues et commerciales.
La Factory, la fabrique. Un loft situé au 33 Union Square West, à New York donc. La Factory, c'est l'atelier d'artistes créé par Andy Warhol dans les années 60. La Factory, c'est la fabrique de sérigraphies à la chaîne. La fabrique d'un mythe d'ascension sociale. La fabrique de superstars, disait Warhol. Mais pouvait-il seulement y avoir une autre superstar quand Andy Warhol était dans la place ? Si l'Amérique m'était comptée, Andy Warhol. Pubard ou génie du XXe siècle ?
Hi guys.
Et pour commencer cette émission, écoutons des rockers qui ont pas mal squatté la Factory de Warhol dans les années 70. Écoutons Brown Sugar, l'héroïne brune, comme par hasard, par les Rolling Stones.
Il y a deux siècles,
Le voyage était long pour se rendre d'Europe aux États-Unis.
Et sur les navires, il était difficile de conserver la nourriture.
En 1810, une invention du français Nicolas Appert a tout changé.
La boîte de conserve.
Elle a connu un grand succès aux States, où les pionniers avaient d'immenses territoires à traverser.
À la fin du 19e siècle, nouveau bouleversement. Un industriel a l'idée de mettre de la soupe en conserve.
Gros succès, l'invention est médaillée à l'Exposition universelle de Paris en 1900.
D'ailleurs, cette médaille est reproduite sur les boîtes de soupe.
Des boîtes de soupe rouges et blanches.
Des boîtes de soupe Campbell's, évidemment.
Des conserves qu'Andy Warhol a reproduites en série au début des années 60 pour une œuvre majeure du pop art.
Et sans doute, plus que des soupes en conserve, l'art d'Andy nous a nourris.
Alors, aujourd'hui, si l'Amérique m'était comptée, on ferait une halte à Union Square, à New York, pour aller saluer Andy Warhol dans sa factory.
L'historien de l'art Alain Cueff nous raconte l'ascension fulgurante de Warhol. Des mines de Pittsburgh à la reconnaissance internationale, d'Andrew Warhola au pape du pop art.
Andy Warhol, grand peintre pop américain, né à Pittsburgh en Pennsylvanie, fils d'un émigré tchèque, étudie au collège artistique Carnegie Tech, débute à New York en peignant des chaussures pour une boutique en vogue. Andy Warhol est aussi un important réalisateur de films. Il travaille en ce moment sur un film qu'il vient de tourner en France. Is the face in the
misty light. Alain Cueff, bonjour.
Bonjour.
Alors, pour commencer, Andy Warhol avait souvent l'habitude de dire « je viens de nulle part ». Qu'est-ce qu'on peut dire de ses racines ? C'est un gamin des Carpates en Europe centrale ?
Oui, son père était un gamin des Carpates puisque lui est né aux États-Unis. Et nulle part, c'est deux choses. C'est en effet les Carpates qu'il n'a jamais connues, qu'il n'a jamais voulu visiter. Et puis nulle part, c'est aussi Pittsburgh, qui est l'Amérique profonde, qui ne ressemble pas à grand-chose, ou plutôt qui ressemble à l'enfer industriel du début du siècle.
My name is Andy Warhol, and I just finished eating a hamburger.
Alors, vous avez prononcé le mot de Pittsburgh. Il y est né le 6 août 1928, Andy Warhol. Il a grandi en Pennsylvanie. Il a une enfance assez particulière parce qu'il est malade. En fait, il est atteint de la danse de Saint-Guy. Il est soigné par sa mère. Il est contraint à être alité régulièrement. Et là, c'est important parce que dans ces moments de souffrance, on va dire, il dessine, il écoute la radio. Il collectionne déjà, je crois, des photos de stars de cinéma. Et c'est très important, en fait, cette période-là de jeunesse de malade pour comprendre, parce qu'en fait, tout naît là, quasiment, pour Andy Warhol.
Alors, effectivement, cette maladie nerveuse, on voit bien qu'il est fragile, il est, au moment de la mort de son père, absolument traumatisé et perdu. Ça lui permet d'avoir un rapport avec sa mère très étroit. Elle va venir à New York habiter chez lui et jusqu'à quelques mois précédant sa mort, elle sera à ses côtés. Et elle est porteuse de toutes ces traditions d'Europe centrale, que ce soit les œufs de Pâques peints, la façon de bricoler un certain nombre d'objets pour les vendre dans le voisinage, dans cette communauté de Pittsburgh. Et donc, elle l'encourage, bien évidemment, il faut l'occuper, elle l'encourage pendant de longs mois à dessiner, au fond, à faire comme elle. Et c'est très intéressant de mettre en parallèle cette période de l'enfance et le moment où il aura une activité publicitaire à laquelle il va l'associer. Elle va calligraphier un certain nombre de textes avec cette écriture très particulière. Warhol, en effet, est quelqu'un non seulement de fragile nerveusement, mais ce qui va avec, c'est une sensibilité exacerbée. Il y a cette phrase célèbre où il dit « Je préférais ne pas me soucier trop des autres. I prefer not to care. » Comme si, en effet, la compassion était un engagement inéluctable et qui l'aurait entraîné trop loin, et trop loin, c'est-à-dire trop loin de sa création.
Il y a une date, première date importante dans la vie d'Andy Warhol, c'est 1949. À la fois, il finit ses études en Pennsylvanie, et puis c'est l'année où il va partir à New York. À votre avis, Alain Cueff, qu'est-ce qu'il part chercher à New York, ce jeune Andy Warhol, tout frais diplômé ?
Alors, il part très certainement chercher l'aventure. On n'a pas du tout affaire à un jeune homme renfermé, incertain. Il est sans doute timide, mais il est très déterminé. Il sait où il va. Il a manifestement conscience de son homosexualité dès ce moment-là. Et évidemment, comme pour beaucoup d'Américains ou d'Européens, la ville est le lieu où on peut épanouir plus facilement que dans une communauté un peu refermée sur elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va aller à New York en compagnie d'un condisciple, hein, qui est Philippe Pearlstein, qui lui est quelques années son aîné et qui veut aller à New York pour devenir artiste. L'idée de Warhol, c'est pas tout de suite pour devenir un artiste, c'est pour travailler dans la publicité. Ce pourquoi d'ailleurs il a été formé. Donc pas de folie, pas de rêve inatteignable. On va d'abord constituer un trésor de guerre ça marche si bien que Warhol va, et l'entreprise Warhol va prospérer assez vite, et que bien avant qu'il devienne artiste, il a déjà pu acheter un hôtel particulier et mener une vie assez confortable.
C'est vrai que ce sont les années 50 hein, pour lui à ce moment-là, donc il est pubard, hein, comme on dit. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça correspond un peu à la série Mad Men, si on veut. C'est les années 50, ces bureaux publicités qui explosent. Voilà, il y a des jeunes créateurs qui sont là pour dessiner des campagnes publicitaires. Warhol prend ça à bras-le-corps et devient effectivement très célèbre et très riche très vite. Néanmoins, la décennie suivante, il opère très vite une transition vers le monde artistique. Les sérigraphies commencent déjà dès les années 60, évidemment. Et il va avoir aussi l'idée très vite d'ouvrir cette factory. C'est 1964, hein, je crois, si je ne dis pas
bêtise. Elle est de fait, elle s'ouvre tout début des années 60, au moment où il engage son premier assistant, qui est Gérard Malanga.
Et c'est quoi l'ambition de cette factory dès le départ, Alain Cueff ?
Il faut quand même préciser une chose, qui est très, aussi très intéressante, c'est que pendant qu'il est pubard, comme vous dites, c'est quelqu'un qui sort beaucoup déjà, qui va dans le Lower East Side, c'est-à-dire ce quartier un peu à l'abandon, mais en même temps qui vit d'énergie créatrice et où se produisent des spectacles alternatifs dans le domaine du théâtre, de la musique essentiellement. Et Warhol est passionné par ça. L'expérience de la publicité, c'est une expérience des images du monde moderne, c'est une expérience de la production. Et en effet, la technique de la photosérigraphie impose d'une certaine façon de soi-même un espace suffisamment grand, des collaborateurs qui peuvent aider l'artiste à travailler. Et assez vite, la factory devient un lieu mondain, un lieu de fête où toutes sortes de gens vont se retrouver, que ce soit de nouveaux riches qui viennent s'intéresser à l'art, ou bien à l'inverse, des paumés qui s'intéressent aussi à l'art, qui ne savent pas très bien ce qu'ils vont faire. Et tout ce monde est totalement hétérogène. Se retrouve à l'occasion de fêtes savamment organisées. Warhol arrive à créer une atmosphère et il est là, j'allais dire, en vigie. Il peut observer tous les jours qu'il y ait des fêtes ou pas. Il y a toujours du monde, il y a toujours des événements.
Et puis, Alain Cueff, alors qu'on a pu lui reprocher de ne pas avoir dissocié finalement le côté industriel, pubard et l'art, finalement cette factory, c'est pour Warhol s'inscrire dans une tradition d'histoire de l'art. Les grands artistes de la Renaissance avaient des ateliers, ils avaient des factories, le Tintoret, Titien avaient des factories. On a pu reprocher ça à Warhol, sauf que ce choix-là, c'est l'inscription de Warhol dans l'histoire de l'art.
Bien sûr, et certains ont aussi été ambassadeurs et ont occupé des fonctions officielles qui ne les empêchaient pas, surtout aux Pays-Bas, ce qui ne les empêchait pas d'être de grands artistes. En effet, personne n'a jamais contesté à Rubens ou à Van Dyck ou à d'autres la paternité de leurs œuvres. Et de la même façon, on ne doit pas se méprendre sur la position d'auteur de Warhol. Il y a des légendes, il y a aussi beaucoup de collaborateurs qui ont voulu s'approprier le travail de Warhol en disant « c'est moi qui lui ai donné l'idée, c'est moi qui l'ai fait ». On entend ça constamment, encore aujourd'hui. La vérité, c'est que Warhol avait une conscience très claire de ce qu'il voulait faire, des moyens qu'il devait employer, et que s'il pressait un peu ses collaborateurs, comme on presse un agrume, pour en retirer une substantifique moelle, c'est lui qui faisait les choses, c'est lui qui prenait les décisions. Et les assistants étaient des assistants, c'est-à-dire qu'ils étaient là pour opérer un travail manuel qui n'avait pas directement d'incidence sur la qualité de la production. Donc tout ce monde de la factory, c'est un monde, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui apportent des informations, ce sont des gens qui vivent sous son œil, ce sont des gens qui l'enregistrent. Il y a ce livre extraordinaire fait en collaboration avec un personnage qui se faisait appeler Ondine et qui s'appelle A, un roman qui n'a jamais été traduit en français, qui est simplement qui consiste en 24 heures d'enregistrement verbatim. Il y a pas d'édition, il y a pas de travail sur la langue, sur la ponctuation, quoi que ce soit. Et Ondine est un des personnages flamboyants de cette factory, hein, et les plus attachants aussi, parce qu'il a une intelligence décuplée par l'usage de la drogue, qui est omniprésente dans la factory, faut-il le rappeler. Mais ça donne des résultats tout à fait extraordinaires.
Warhol, phénomène artistique du XXe siècle, touche à tout de génie. Il promenait sa chevelure blonde et sa silhouette frêle dans l'environnement moderne et projetait son imagination hyper réaliste sur les objets les plus usuels. Il devint célèbre en transformant en œuvre d'art les étiquettes des boîtes de soupe Campbell et autres produits courants.
On connaît Alain Cueff Warhol pour des tas de raisons. Pour évidemment les canettes des soupes Campbell, pour des objets peints, plus l'objet. On connaît plus Warhol pour l'objet. Et il y a quelques années, en 2009, vous étiez le commissaire d'une magnifique exposition au Grand Palais, à Paris, où vous aviez insisté sur quelque chose de très important pour comprendre Andy Warhol, c'est qu'on a tendance à sous-estimer une de ses principales préoccupations dans sa vie d'artiste, c'est le portrait. On ne peut pas comprendre Andy Warhol si on ne comprend pas son obsession pour le portrait. Pas que le sien, pas que l'autoportrait, pour la production des portraits qu'il a fait tout au long de sa vie. C'est très important, ça.
Alors ça, c'est capital. On le voit dès ses années d'études, dans sa façon de dessiner ses proches au moment où il travaille dans la publicité. Et c'est un exercice, c'est un dessinateur compulsif, Warhol. Il y revient d'ailleurs très fort à la fin de sa vie. Et le portrait constitue quelque chose de... C'est le mystère de l'homme, tout simplement. C'est un peu pompeux de le dire de cette façon, mais pour les anciens, c'était le miroir de l'âme. C'est là que la vie se manifeste, c'est là qu'elle se cristallise, c'est là qu'elle est belle. C'est là aussi, dans le visage, que l'on entend les désirs, les passions, les regrets, tous les sentiments qui font une âme humaine. Et les premiers portraits sérigraphiés ont évidemment une importance considérable. Le plus connu, c'est celui de Marilyn Monroe, qu'il décide, dit-il, de peindre le jour où il apprend sa mort. Mais en même temps, il y avait un portrait qui faisait d'ailleurs l'affiche de l'exposition en 2009, qui était le portrait d'Ethel Skull, et qui était un portrait cinématique, comme un collage de différentes expressions de cette dame riche qui fait partie de ces nouveaux riches que j'évoquais tout à l'heure, et qui est un portrait extraordinairement vivant. C'était essentiellement la raison pour laquelle je l'avais choisi comme emblème de l'exposition, parce que ça montre bien l'ambivalence et que Warhol va cultiver entre cette vie qui est passée, qui a disparu, et en même temps qui est gardée, encapsulée et restituée avec une fraîcheur et une vivacité sans pareil. En même temps, Warhol est quelqu'un de joueur, on pourrait dire aussi quelqu'un de pervers, et ça lui arrive, ça lui est arrivé dans ce portrait de commande essentiellement, de proposer des portraits qui pouvaient être quelquefois un petit peu caricaturaux, un petit peu
ironique,
un petit peu même méchant, mais où il était évidemment là intéressé à voir aussi la naïveté de tout homme au fond par rapport à sa propre image. Donc la naïveté induite par le narcissisme. On est narcisse est un peu idiot parce qu'il n'a pas compris que c'est dans l'eau qu'il voit son visage et que cet autre là n'est que lui-même. Donc il y a une sorte de perversité que les gens ont associée aussi à l'appétit de l'argent que en effet Warhol avait, ça c'est indéniable. Mais c'est pas parce que un artiste comme lui trouve les moyens de gagner de l'argent avec un certain type de produit que ces produits sont mauvais ou qu'ils ne sont que l'écume des jours, qu'ils ne sont que une production de second ordre. Ce que j'avais voulu montrer, c'était effectivement la cohésion de cet intérêt pour le portrait à travers non seulement les icônes qu'il a produites, que sont celles de Marilyn Monroe ou de Liz Taylor et de tant d'autres, mais aussi de ceux qui venaient le voir en lui disant « je voudrais que vous fassiez mon portrait ».
C'est ça qui est important, Alain Cueff, parce que ce que vous laissiez sous-entendre dans cette exposition, c'est que à la fois, évidemment, il y a Marilyn Monroe que tout le monde connaît, mais il y a aussi une œuvre warholienne cachée. Les portraits de commande, puisque, voilà, je me souviens, il y avait un portrait de, d'un Rockefeller, me semble-t-il, à cette exposition.
Bien sûr.
Parce que tout le monde voulait son portrait de Warhol.
Bien sûr.
Et que du coup, il y a plus de 1000 portraits, je crois qu'il a.
Oui,
il y a
un nombre considérable. Oui.
Et que du coup, ce que vous soulignez dans cette exposition il y a quelques années, c'est l'œuvre cachée d'Andy Warhol qui n'est pas accessible au public. Puisque,
forcément, voilà. Puisque les gens les conservaient dans leur intérieur. Quoique on puisse voir désormais, le temps passant et les héritages étant dispersés, un certain nombre de portraits qui resurgissent dans les ventes publiques. Il y avait un très beau portrait d'Hélène Rochas qui a été dispersé il y a quelques temps d'ailleurs.
Et Warhol, je crois, hein, vous m'arrêtez si je me trompe, mais c'était aussi, ça faisait partie de l'exposition que vous dirigiez. Warhol avait quand même l'idée que tous ces portraits ne faisaient qu'une seule œuvre. Un jour, ils seraient mis les uns à côté des autres et on verrait que ce serait un portrait de la société. Et il a même dit, je crois, qu'un jour le Met, pas le MoMA, le Met, l'équivalent du Louvre, on va dire, oui, à New York, le Met, donc le musée historique, achèterait, oui, ce tableau-là fait de tous ces portraits, ce qui donne quand même la conscience de Warhol de s'inscrire encore une fois dans l'histoire de l'art. C'est pas un pubard, c'est un artiste majeur du XXe siècle.
Absolument. Non, mais vous avez raison de rappeler ces dimensions parce que c'est impossible de réunir tous les portraits. Mais l'idée de rassembler autant de visages et de montrer l'image du monde. Hein, l'exposition s'appelait Le Grand Monde d'Andy Warhol. Il y avait un double sens évidemment. C'était à la fois le monde des beaux, riches et célèbres, et c'était ce grand monde qui est notre monde à nous, qui est ce monde sans dimension ou en extension permanente, cette communauté des hommes que Warhol avait l'idée de reconstituer d'une certaine façon. Et il ne le faisait pas seulement avec la peinture, il le faisait aussi avec les films et la photographie. Donc il y a cette idée que je trouve absolument fascinante, qui est typiquement une idée de grand artiste, parce qu'elle est folle, parce qu'elle est trop ambitieuse, parce qu'elle est, elle est démente, de refaire le monde des hommes, voilà, de redonner tout ça en peinture. Et vous savez peut-être qu'il avait réalisé un film qui durait 24 heures, qui a été projeté une seule fois, mais c'était la même chose, ou c'était une idée apparentée. C'est toujours cette volonté de tout capter, de tout garder, de tout contenir et de le redonner. Parce que il y a en même temps, et quoi qu'en disent certains, une générosité chez Warhol.
Alors justement, Alain Cueff, la générosité, on sait aussi que tout au long de sa vie, Warhol était un démiurge, hein. Que ce soit du Velvet Underground avec Lou Reed, en allant jusqu'à Kissaring, Basquiat, David Lachapelle, qu'on écoutera tout à l'heure. Est-ce que c'était une générosité ou alors aussi un désir de tout contrôler, parce qu'il avait aussi ce côté un petit peu là d'omnipotence, Andy Warhol. Donc générosité ou envie d'être le maître du monde, en fait, et donc contrôler tous ces jeunes artistes autour de lui.
Oh, je crois qu'il y a une dimension qui lui permet d'échapper à tout ça, c'est l'ironie. C'est un homme très très drôle. La lecture de ses entretiens, de Ma philosophie de A à B, même de son journal, pour moi c'est de la grande littérature. Et je le dis sérieusement.
Et avec une vraie ironie, parce que ma philosophie de A à B, c'est très drôle.
Et retour. And back again. C'est plus facile de se dire que Warhol était un simple d'esprit et qu'il était cynique, que de s'interroger sur les ressorts de sa personnalité. Alors,
et sa complexité.
Et sa complexité, bien sûr. Mais quel est l'homme, quel est le saint qui serait très généreux, qui ne serait pas en même temps un petit peu narcissique, un petit peu pervers? Je veux dire, c'est regrettable que nous soyons obligés toujours de dire cette personne est comme ça, elle est comme ça et pas autrement. C'est totalement faux. En fait, nous sommes des mélanges de bien et de mal. Hein, et la générosité, c'est vrai, n'allait pas sans une certaine forme de cruauté ou en tout cas d'exigence très prononcé à l'égard des gens qui l'entouraient, de déception. Il y a aussi à plusieurs moments, Warhol est déçu par les gens qui l'entourent. Il les manipule, il leur fait faire des choses. Et en même temps, personne ne peut dire qu'il n'était pas averti de cette capacité de Warhol à les manipuler. Il y en a qui s'en sont jamais remis. Et je dirais, c'est pas une conclusion, c'est une conclusion un peu facile, mais il y a bien des choses qu'on doit pouvoir passer à un génie. Et je crois que Warhol en était un, et il l'était aussi bien avec sa générosité qu'avec sa perversité.
Imaginez que vous êtes sur le point d'acheter une toile pour 200 000 dollars. Vous feriez mieux de garder cet argent, de l'attacher et de l'accrocher à votre mur.
Eh bien, je pense que Warhol a voulu ainsi se moquer de ceux qui achètent une toile uniquement dans le but de faire un placement financier, et qui n'achètent pas du tout tel ou tel artiste par goût, mais qu'il l'achète simplement en se disant « j'obtiendrai une plus-value dans les années qui viennent ». Et avec Warhol, ils ont réussi. Je m'aperçois que plus on va, plus ces dollars deviennent d'une couleur brillante, ce qui veut donc dire qu'au départ, il cherchait sa voie et que c'est au fur et à mesure de l'évolution de son art qu'il est arrivé au sommet.
Pour finir, Alain Cueff, Warhol a failli mourir une première fois en juin 68, puisque il s'est fait vider un chargeur de flingue par Valérie Solanas sur lui, hein, donc il était gravement blessé. Et puis, il a fini par mourir, mais bien plus tard, en février 1987, à l'hôpital, dans son sommeil, après une opération d'une crise cardiaque. Mais j'ai jamais su à quoi ressemblaient les obsèques de Andy Warhol. Est-ce qu'on sait ça? Comment se sont passés les obsèques?
Il y a même une vidéo
qui
a été montrée à la Maison Rouge à Paris, en même temps que l'exposition au Grand Palais, qui nous amène à évoquer une dimension fondamentale. C'est la religiosité de Warhol, à laquelle j'ai consacré un livre. Alors c'est pareil, c'est quelque chose que les gens ont un peu de mal à accepter, parce qu'on se dit, voilà un type qui voulait gagner de l'argent, qui ne pensait qu'à ça, qui voulait être le roi de New York, qui voulait apparaître dans les journaux, qui a même fondé son propre journal, qui était imbu de lui-même, etc., et qui n'avait que mépris pour la société sur le dos de laquelle il mangeait. En fait, on ne comprend les portraits que si on fait référence à sa culture religieuse. Alors, il est né dans le contexte d'une religion uniate. Pour aller vite, c'est une forme, une adaptation de la religion orthodoxe, mais c'est bien sûr chrétienne. Et quand il est arrivé à New York, il n'y avait pas de communauté orthodoxe qui puisse lui convenir. Donc il a glissé, si on veut, vers le catholicisme. Et du coup, sa fréquentation de l'histoire de l'art, du Metropolitan en particulier, qu'il visitait très régulièrement, donc son rapport avec la peinture religieuse, les souvenirs d'enfance, le rapport aux icônes, donc c'est bien ça qui est en jeu dans la culture orthodoxe, tout ça a nourri le jeune Warhol et le Warhol adulte, et il lui a permis de mener une réflexion sur la possibilité même de représenter l'homme, sur les façons de le faire, sur la signification, sur la pérennité d'une image. Et ça, c'est quelque chose qu'il doit à la religion. C'est quelqu'un qui allait à la messe tous les jours et il a en effet eu des obsèques d'une certaine façon très important, parce que John Richardson, qui est un spécialiste de Picasso et un proche ami de Warhol, en quelque façon révélé à ceux qui ne le savaient pas à quel point Andy Warhol était un homme pieux, et révélé que son hôtel particulier, dans lequel très peu de gens étaient admis, c'était vraiment un domaine très séparé, pouvait ressembler à une sorte de presbytère, avec des objets de culte, avec des peintures religieuses, un lieu de recueillement, un lieu de méditation, tout à l'opposé de la frivolité généralement attribuée à Warhol. Donc les obsèques de Warhol sont ce moment de la révélation de sa foi, peut-on dire, profonde. Mais le message de John Richardson n'a pas été tout à fait compris, tant le contraste en effet est grand entre le Warhol public que l'on voit à la télévision et même dans quelques séries télévisées, et qui fait des blagues plus ou moins bonnes, et puis ce Warhol secret, pour reprendre le titre d'un article de Richardson, qui est un homme au fond tourmenté jusqu'au bout, inquiet non seulement de sa propre vie, parce qu'il avait horreur par exemple des hôpitaux, et spécialement le jour où il y est allé pour la dernière fois, sous un faux nom d'ailleurs. Voilà, c'est cette contradiction qui apparaissait aux obsèques de Warhol, avec une foule extraordinaire qui rassemblait tout ce que New York comptait encore de rich and famous à cette époque-là.
C'était un vrai plaisir de vous écouter, Alain Cueff. Je vous remercie beaucoup.
Merci.
À bientôt, au revoir.
Comme un tournesol nous fait penser à Van Gogh, un taureau à Goya ou Picasso, désormais une boîte de soupe nous évoquera Andy Warhol.
Fly me to the moon. Fly me to a star.
Je peins ces objets parce que ce sont ceux que je connais et que j'aime le plus.
But there are no stars in a New York sky.
Je peins des billets de banque parce que l'argent, c'est ce que j'aime le plus au monde.
They're all on the ground.
Dans ce pays, les riches et les pauvres boivent la même chose. Le président des États-Unis boit du Coca-Cola, Liz Taylor boit du Coca. Et nous aussi, vous vous rendez compte? Tout l'or du monde ne nous donnera pas de meilleur Coca-Cola que celui du Clodo, au coin de la rue.
Il est peut-être le premier à s'être interrogé sur la signification du banal, sur sa richesse. Et le paradoxe de l'œuvre de Warhol, c'est justement d'avoir élevé, d'avoir indexé le banal, d'en avoir fait autre chose que cet objet du quotidien.
are trying to run. I grow weary. Trying to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle. But I look down, and I'm afraid. I'm afraid. But you lift me high. Trying to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day.
Revival, un titre signé Gregory Porter.
La Factory, le studio 54, les fêtes et la drogue aussi, notre prochain invité a connu tout ça. Il avait à peine 15 ans quand il a débarqué à New York avec ses quelques photos et qu'il a commencé à bosser pour le magazine Interview. Ses copains, c'était Jean-Michel Basquiat ou Keith Haring. Et évidemment, leur maître à tous, c'était Andy Warhol. Aujourd'hui, notre invité a 50 balais. Il habite à Hawaï, il a le teint hâlé et un look hybride mi-hype, mi-grunge. Il expose à la galerie Templon à Paris, galerie qui a été la première à exposer Warhol en France. Aujourd'hui, notre invité est un photographe mondialement célèbre et nous sommes ravis de le rencontrer. C'est David Lachapelle.
Pendant 20 ans, David Lachapelle a sublimé les plus grandes stars avec son appareil photo. Roi de la mise en scène farfelue, surréaliste et parfois osée, on se l'arrache. Madonna, David Bowie, Naomi Campbell ou Paris Hilton ont succombé à son talent et se sont docilement et délicieusement prêtés à son objectif. Il y a 3 ans, l'artiste s'est tourné vers des voies plus mystiques, méditatives. Une visite à la chapelle Sixtine et Michel-Ange devient son mentor.
Bonjour David Lachapelle, on fait un essai voix.
Testing 1, 2, 3, testing 1, 2, 3.
1, 2, 3, essai 1, 2, 3.
Alouette, j'entends Alouette. Alouette. Alouette.
Je te plumerai.
Je te plumerai. Sorry, that's my extent of my French.
Voilà, c'est à peu près tout le français que je peux vous parler.
Quand vous arrivez à New York au début des années 80, c'est vous, jeune homme serveur,
au mythique Studio 54. Qu'est-ce que vous y voyez? Vous nous rappelez ce que c'est que ce Studio 54 au début des années 80?
When I was young, I was in school in
Connecticut. Lorsque j'étais jeune, donc j'étais au lycée dans le Connecticut, c'était très proche de New York, il suffisait simplement de monter dans le train.
I got into, 7th and 8th grade.
Et quand je suis arrivée vraiment à la fin du lycée, enfin dans les années de lycée, c'était difficile parce que j'étais différent, je ne m'habillais pas comme les autres. Et je voulais m'exprimer de toutes les manières qui m'étaient possibles, alors que ça pouvait être par la façon de s'habiller. Et je n'étais pas du tout pareil que les autres. Moi, j'allais dans les boutiques de fringues d'occasion et ma mère me disait « Pourquoi tu ne t'habilles pas comme tout le monde ?» quoi. Et moi, je voulais pas ressembler à ces autres qui se moquaient de moi et qui étaient très durs avec moi et qui me méprisaient et me martyrisaient à l'école, hein, vraiment. Et donc, ça a été de plus en plus difficile d'aller à l'école. Et donc, j'y suis allée de moins en moins. Et donc, j'ai fini par prendre le train et me rendre à New York. Et là, j'ai trouvé un monde qui m'a plu. Je me suis sentie chez moi. J'ai rencontré des gens. On s'en fichait comment ils étaient habillés, quels étaient leurs penchants. C'était des artistes. Et j'ai commencé ces deux premières années à New York, de 15 à 17 ans, à travailler, à faire de la photographie. Mais j'avais besoin de gagner ma vie et je travaillais dans des discothèques. Notamment, il y avait le Studio 54. Studio 54, c'était magique. La musique était très gaie. C'était avant le sida, hein, donc la sexualité était débridée. Je voyais ces femmes magnifiques, ces hommes magnifiques, et il y avait tous les gens dansaient de façon démesurée. Il y avait des très belles lumières, il y avait des gens de classe et très différentes, il y avait des célébrités, il y avait des enfants de la rue, il y avait des prostituées hommes avec, par exemple, Princesse Stéphanie ou quelques princesses que ce soit, vous voyez. Il y avait Andy Warhol, il y avait Lisa Minnelli.
La petite octogénaire reine du disco s'amusait jusqu'à l'aube. Les top modèles se mélangeaient aux ouvriers, les plombiers dansaient avec les princesses. C'était un endroit où toutes les étiquettes restaient au vestiaire. Un endroit sans règles ni contraintes.
Il y avait tous ces gens et c'était des gens qui étaient là tous les jeudis. Alors jeudi soir, c'était le soir où il fallait y être. Et le DJ s'appelait Popo. Et il faisait DJ Disco all the time.
D'ailleurs, David Lachapelle, vu que nous parlons musique, vous allez pouvoir éclaircir un point de votre biographie. La rencontre avec Andy Warhol, elle se fait au Studio 54 ou elle se fait, j'ai lu ça, à un concert des Psychedelic Furs. C'était au Ritz.
J'ai vu Andy au studio, bien sûr. Mais je savais rester à ma place. J'étais une nouveauté, j'avais 15 ans quand j'ai commencé à travailler au Studio 54. Alors, c'était beaucoup plus drôle d'y aller que d'y travailler, hein, bien évidemment. Vous savez, j'étais très jeune, donc il y avait des endroits où je ne pouvais pas me rendre dans le club. Mais ils trouvaient ça super, on était jeunes, on était beaux, on était des gamins et les gens étaient un peu spéciaux, donc ils trouvaient ça charmant qu'il y ait un jeune garçon, enfin comment vous dire. Et ils avaient un petit nom pour les jeunes garçons qui étaient des petits poulets quoi, chicken. Moi je ne l'utilisais pas mais je savais très bien que voilà, j'étais un des petits poulets. C'était assez inhabituel, mais je savais rester à ma place et je n'avais rien à offrir à ces gens-là. Je ne voulais pas coucher avec eux. Eux, c'est ce qu'ils voulaient, mais moi pas. Donc moi, je dansais. J'adorais les regarder, les observer. Je voyais tous ces gens qui sont mes héros, Andy Warhol. Cabaret, donc c'était mon film favori. Vous avez vu, je voyais Lisa Minnelli. Alors la première fois que j'allais au Studio 54, il y avait une grande fête pour le Village People, donc vous voyez, c'était complètement dingue. Moi, je les voyais, mais je leur parlais pas, parce que je me rendais bien compte que je n'avais rien à offrir. C'était des gens qui avaient déjà une carrière, qui étaient déjà célèbres, Et moi, bah, j'étais un petit poulet, quoi. Donc, je n'ai pas parlé à Andy jusqu'à plusieurs années. Et voilà ce qui s'est passé. Un miracle. Vous savez, j'essayais de continuer à peindre toutes ces années pendant que j'étais à New York, alors que j'avais décidé d'arrêter l'école. Mon père est venu me chercher et m'a dit, « Bon, il faut que tu finisses ta scolarité. Il y a une école de beaux-arts dans le nord de la Caroline. Elle était gratuite, et comme toutes les classes que j'ai suivies d'art plastique. Hein, et donc, mon père m'a conduit là-bas, en Caroline du Nord. Et moi, j'étais ravie d'y aller. Et dessiner me rendait très heureux. Je ne me sentais pas seule, plus seule. Et vous savez, j'étais un peu un gamin à part. Et si j'avais quelque chose à faire, si je ne savais pas quoi faire, je commençais à dessiner. Et c'est à l'âge de 17 ans que je me suis lancée dans la photographie. Et c'était au lycée. Et j'ai pu m'inscrire à une classe de photo. Et à la fin de l'année, tous mes camarades, je les ai tous mis nus, en fait, dans une salle de classe. Et je leur ai fait poser dans un cadre avec cette imagerie qui est la salle de la Renaissance. J'adore Michel-Ange. Et donc, ils avaient ces poses un peu lascives. Ils étaient tous nus. Il n'y avait rien d'érotique dans cette première photographie. Et je n'ai jamais pris, en fait, de photographie, à mon sens, érotique.
Dans le monde tourmenté du célèbre photographe américain David LaChapelle, Naomi Campbell est prisonnière de chaînes en diamant. La jeune rappeuse Lil Kim a le corps tatoué de logo Louis Vuitton. Les canettes de coca géantes écrabouillent les 4x4 des Desperate Housewives californiennes, un peu trop riches. Et l'humanité sombre, victime de son obsession pour le luxe, le matérialisme et l'apparence. Une course frénétique au profit qui a précipité le monde dans la crise.
Mais David LaChapelle, si je vous cite, vous dites que les magazines sont des galeries d'art et les réfrigérateurs des musées. Et là, je pense que tout le monde a compris que le pop art, c'est vous. Vous êtes au début des années 80 à New York, vous rencontrez Andy Warhol. Évidemment, vous vous reconnaissez dans cet art. Vous vous dites, c'est ça, c'est en vie. Vous allez à la Factory.
Donc je suis rentré de Caroline du Nord et j'avais appris la photographie dans cette école d'art. Donc j'ai apporté en fait ces photographies que j'avais prises de mes amis à New York. Et je suis allé chez Vogue et ils m'ont juste foutu dehors. Et j'ai rencontré Andy. Et Interview était son magazine était le plus célèbre à l'époque, le plus important pour vendre ce qui était la culture de l'époque. Et même si Andy n'était pas un artiste reconnu, on a oublié, mais à l'époque il était très critiqué, notamment aux États-Unis. Les critiques d'art étaient violents et très brutales au moment d'apprécier son travail. Mais pas mal de gens le méprisaient en tant qu'artiste. Mais moi j'adorais Andy. Et j'aimais le magazine Interview. Donc j'y suis allée avec mes photos, sur les recommandations d'un ami. Et je me suis dit, là, le moment est venu où je peux me présenter et j'ai des choses à lui montrer, j'ai des photographies à lui montrer. Toutes ces années où je le voyais, il était là-bas, il était assis, moi je disais rien, j'étais dans mon coin. Finalement, donc voilà, je lui montre les photographies et il était facile, son contact était facile. Et voilà, je lui dis, voilà, je voudrais vous montrer mes photographies. Il me dit, allez, viens, viens, ben viens. Viens au bureau. Lundi. Et c'était juste à côté de l'endroit où j'habitais, à Union Square. Et j'y suis allé. Et il y avait beaucoup, vous savez, d'agents de sécurité parce qu'il avait été. On avait une tentative d'assassinat contre lui dans les années 60. Il y avait donc quelqu'un qui était là, qui était une des superstars de Warhol, qui était à l'accueil. C'était très amusant, en fait, de rentrer dans ce bâtiment. Et donc elle arrive, elle fait donc cette réception, on dit alors encore un petit poulet qui vient voir Andy, donc en levant les yeux au ciel. Et Andy arrive, et on s'assoit, je lui montre mes photos, et il était très curieux, et il me posait plein de questions, et il était très intéressé par mon travail. Et quelqu'un de cette envergure qui s'intéresse à votre travail, c'est quand même complètement fou. Et c'était pas bizarre, c'était pas du tout mal intentionné, ça m'a pas du tout mis mal à l'aise. Non, il s'intéressait aux gens jeunes, aux jeunes gens. Très doux, un homme très doux. Donc il a pris mes photos, celles que j'avais prises de tous mes amis. Il me dit, oh c'est super, oh super. Et je me disais, c'est pas possible, Andy Warhol est en train de dire que c'est super. Et donc, je suis retournée voir mes amis et je dis, hey, Andy a dit que mes photos étaient super. Et plus tard, lorsque j'ai travaillé pour lui, il utilise à tort et à travers le mot great, donc super. Oh, il mangeait un gâteau, il disait, oh, c'est super! Oh, tes chaussures sont super! Mais en même temps, il le pensait vraiment, il était enthousiaste de plein de choses et c'était sa façon de l'exprimer. Il était très généreux.
Hello, that's it. Hello, that's it.
Chez Andy Warhol, le roi de l'op art et de l'underground movies. L'underground movies, c'est le cinéma des profondeurs. C'est la grande vogue ici. On voit pendant 90 minutes un homme qui dort, un long baiser de 115 minutes, ou encore une délicieuse prêtresse qui répète inlassablement « Allô, Plazait ». Celle-ci, c'est Nico, l'une des vedettes de la Dolce Vita. On fait tourner la caméra, seule, objectivement.
Hello, Plazait.
Et voilà ce que ça donne.
Hello, Plazait. Hello,
Plazait. Et c'est l'époque Kissa Ring, c'est l'époque Jean-Michel Basquiat. Andy Warhol est aussi un découvreur de talent.
Yes, Andy was working with Jean-Michel.
Andy a travaillé avec Jean-Michel, avec Keith Haring, Ken Shah, tous ces jeunes artistes qui ont été invités à la Factory. Andy et Jean-Michel étaient extrêmement proches et ils ont travaillé ensemble sur des œuvres de peinture. Et maintenant, on considère ces œuvres comme étant des chefs-d'œuvre. Mais personne n'a acheté leurs œuvres. Les collaborations entre Andy Warhol et Jean-Michel a été une véritable tragédie. Il n'y avait pas Internet et c'était le New York Times qui dictait sa loi. Il y avait The Voice aussi, comme autre journal. Et les critiques d'art pouvaient défaire et faire une carrière. À l'époque, Jean-Michel avait 21 ans. Et c'était l'étoile, vous voyez. C'était le jeune génie. 21 ans, et il faisait vraiment la couverture du New York Times. Et à 25 ans, les titres étaient du haut jusqu'au firmament, vous voyez. Et en fait, on pensait que ça allait être une critique positive, mais c'était vraiment une critique extrêmement négative qui visait à détruire l'artiste. Mais vraiment à le détruire, non seulement dans son œuvre, mais aussi dans sa personnalité. À 25 ans, on pensait que voilà, sa carrière était finie, détruite. Et on pensait que Andy avait complètement aspiré en fait l'art de cet artiste. Et on disait voilà que c'était vraiment son petit chien de compagnie, ce qui était quelque chose d'extrêmement raciste à l'époque. Voilà, c'est comme ça qu'on a considéré en fait leur relation. On a même parlé de meurtre, de pédophilie, de choses extrêmement violentes. Et c'était très embarrassant pour eux de voir leur collaboration. Vous savez, traiter de cette façon, c'était humiliant, c'était embarrassant. Et Andy avait 50 ans à l'époque. Et ça faisait longtemps qu'il était sur le marché, qu'il était là dans cette société. Il avait eu des hauts, des bas. Mais et il avait beaucoup de gens autour de lui. Il avait le magazine et tout le monde voulait apparaître en couverture de l'interview. Lui, il avait tout ça. Donc évidemment, effectivement, la critique n'était pas bonne. Soit. Voilà, c'est déprimant. Mais pour Jean-Michel, il n'y avait rien derrière. Jean-Michel était un solitaire. Et il n'avait aucune autre ressource, Jean-Michel. Et moi, je pense que cette critique, cet article terrible dans le New York Times l'a tué. Dire à quelqu'un à 25 ans, voilà, c'est fini, tu as atteint le firmament, tu as explosé, c'est fini. Alors déjà, ça a totalement rompu l'amitié entre Jean-Michel et Andy. Jean-Michel n'a jamais appelé Andy et Andy est mort peu de temps après et Jean-Michel en a été totalement détruit, il était plein de remords.
And in fact, he was spending time in Hawaii, Jean-Michel, trying to kick heroin. He would go off and on.
Et c'est vrai que Jean-Michel avait un rapport à la drogue assez compliqué puisqu'il était heroinomane par moment et donc il retombait dans ses addictions. Et quand on parlait d'Andy Warhol, les gens disaient que voilà que c'était un has-been, qu'il avait trop vécu, qu'il n'était plus à la page, qu'il était dépassé. Et vous rendez compte que Jean-Michel, il n'a rien vendu à cette époque-là. Et vous savez, Andy Warhol au final était un prophète parce que tout ce qu'il a dit, les 15 minutes de gloire par exemple, voyez. Et le travail qu'il a fait, par exemple, avec ces jeunes artistes. Et par exemple, vous savez, la peinture du dollar, c'est exactement l'importance que représente Andy Warhol dans l'art à l'heure actuelle. Maintenant, à l'heure actuelle, les gens, peu importe la critique, peu importe la controverse, c'est vrai qu'il y a de gros investissements dans l'art. Ce n'est même plus des collectionneurs, ce sont des gens qui spéculent. Et c'est un peu ce que veulent les jeunes artistes. Vous savez, ils travaillent pour le marché, ces jeunes artistes. Et c'est une critique que faisait déjà Andy. Et les enchères, en fait, donnent le prix de l'œuvre d'art. Et c'est complètement nouveau. Et il a été prémonitoire, Andy, dans son œuvre.
C'est sans pitié, mais non sans flatterie, que David Lachapelle dénonce la perversité de notre société de consommation. Égo, luxe et luxure, avidité, absence de moralité. Un manichéisme qui oppose avec fracas, guerre et innocence.
Vous, David Lachapelle, avec la photo, vous vous posez aussi cette question. L'art reproductible, on en est où aujourd'hui du pop art avec Internet, avec toutes ces questions-là? C'est-à-dire toutes les questions que se posaient Andy Warhol et vous après. Est-ce que c'est aujourd'hui encore très pertinent?
Ma motivation n'a jamais été l'argent. Je voulais présenter mon œuvre au monde. Il y a eu le sida, moi je pensais que je ne survivrais pas. Voilà, je pensais que j'allais mourir jeune parce que mes amis autour de moi tombaient, quoi. Et pourquoi moi j'allais rester en vie? Je veux toucher les gens comme lorsque l'on écoute de la musique. Il faut, à mon sens, attirer les gens, et c'est là où la beauté peut être un instrument, parce qu'il y a beaucoup de choses très laides partout, trop. Et les gens n'ont pas envie de voir de choses affreuses. Vous en voyez suffisamment lorsque vous regardez les journaux, hein, à la télévision. Mon objectif, dès lors, est de trouver un équilibre. C'est-à-dire trouver un équilibre entre la façon dont les choses se voient et ce qu'elles représentent. Il faut que le spectateur soit touché et comprenne et interprètent l'œuvre à leur façon.
Vous avez dit le mot essentiel, c'est plaisir. En fait, dans votre œuvre, David Lachapelle, il y a du plaisir, parce qu'il y a de la couleur, il y a de l'humour.
Très bien, mais n'oubliez pas que l'art peut changer le monde.
Merci beaucoup, David Lachapelle.
Et voilà, c'est la fin de cette émission Pop Art. Alors merci à notre réal Marco Mutel, assisté aujourd'hui de Gilles Gaillard.
Et puis il ne faut pas oublier Joy Raffin.
Joy Raffin, la voix narrative de cette émission.
Merci Joy, à la semaine prochaine.
Bye folks and see you next week.